Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons au numéro 830 du catéchisme de l'Église catholique qui aborde le sujet intitulé « L'Église est catholique ». Alors, est-ce que tu peux... Le mot catholique, on l'emploie souvent pour nous distinguer des protestants et des orthodoxes. Est-ce que ça a un sens assez restreint, comme un moyen de distinction, justement, avec les orthodoxes et les protestants, ou est-ce que ça a une signification plus large ?
Alors, c'est clair que le sens de la vulgarisation journalistique a fait qu'on a qualifié les catholiques romains, ceux qui étaient restés liés au siège de Rome, et puis tous les autres sortes d'orthodoxes, ceux qui se sont séparés suite au concile d'Éphèse, suite au concile de Nicée et suite au concile de Chalcédoine. Donc il y a eu différents conciles qui, à chaque fois, il y a eu malheureusement des séparations. Et dans ces séparations, ben, on a qualifié ceux qui s'étaient séparés d'un qualificatif qui les caractérise en quelque sorte. Donc tous ceux qui se sont séparés dans les premiers siècles ont été appelés orthodoxes, puis au XVIe siècle protestants avec la réformation qui a débuté avec Martin Luther et Zwingli en Suisse, et puis les catholiques, donc c'était un peu la branche mère résiduelle en quelque sorte. Mais son vrai nom veut dire selon le tout, selon l'intégralité, parce que holos en grec veut dire tout, selon le tout. Alors il existe trois types de tout: le tout subjectif, le tout essentiel en même temps, le tout par partie que l'on appelle le tout intégral, et le tout potentiel. Et l'Église catholique est un tout selon ses différentes dimensions. Elle est tout subjectif parce que c'est Jésus qui est présent en elle. « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », dit Jésus. Donc elle est, de ce point de vue-là, selon ce tout qu'est Jésus lui-même, avec le fait qu'il est la tête par rapport à son corps, ou l'époux par rapport à l'épouse. Et le premier à avoir utilisé dans ce sens le mot « catholique », c'est l'un des tout premiers écrivains ecclésiastiques, saint Ignace d'Antioche, qui est mort vers 107 à peu près, martyr, et qui disait « là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique ». C'est très beau dans sa lettre aux Smyrniotes, et cette expression donc nous touche évidemment beaucoup, puisque juste avant, il disait « suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant au diacre, respectez-les comme la loi de Dieu ». Donc il y avait déjà la structure hiérarchique de l'Église catholique dès ses premiers temps de l'Église. C'est très touchant.
Et dès le IIe siècle, on appelait l'Église catholique. Terme était utilisé.
Le terme probablement est plus ancien que saint Ignace d'Antioche, parce qu'on a dû perdre beaucoup de choses au niveau des écrits qui ont disparu, l'oralité, mais il fallait bien se distinguer au niveau de la loi romaine, parce que soit on était du côté des Juifs et on avait des privilèges acquis par beaucoup d'impôts, de dons que les Juifs avaient fait au pouvoir romain. Ils étaient quand même 10% du bassin méditerranéen, donc c'était énorme. Et ils étaient arrivés à obtenir des privilèges. Et naturellement, l'Église catholique greffée sur le tronc d'Israël se sentait d'abord plus communément attachée à ses racines. Et donc, dans un premier temps, elle a demandé d'avoir le même traitement que les Juifs. Mais les Juifs ont dit « mais nous sommes une ethnie, nous avons des privilèges parce que nous sommes une ethnie ». Eux sont de toutes les ethnies, ce sont des pagano-chrétiens, ils viennent de tous les horizons du monde. Il y a certes des judéo-chrétiens, mais ils ne méritent pas d'être avec le statut privilégié des Juifs. Et donc, c'est à ce moment-là que les chrétiens ont certainement défendu dans leur apologie le fait qu'ils étaient universels et que cela faisait d'eux comme un troisième genre par rapport aux païens, aux Grecs, par rapport aux citoyens donc d'origine juive, et eux qui arrivaient comme un troisième type de religion. Et c'est vrai que le mot christianisme, il apparaît aussi au même endroit avec saint Ignace d'Antioche dans ses lettres. Et il utilise aussi le mot judaïsme qui n'existait pas beaucoup avant, mais qu'on trouve quand même dans les écrits deutérocanoniques, c'est-à-dire les écrits grecs de l'Ancien Testament. Et donc saint Ignace d'Antioche l'utilise très largement et on pourra voir plus tard même qu'il hiérarchise les choses au moment où nous en parlerons. Donc toujours est-il qu'il y a ce premier sens où c'est le sens subjectif et essentiel qui est donné. Elle est catholique parce qu'en elle le Christ est présent. Et deuxièmement, elle est catholique parce qu'elle est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. C'est le tout potentiel, c'est-à-dire tout le monde est attiré par ce foyer de lumière et de révélation qu'est Jésus-Christ. Et donc, tout le monde est en puissance de devenir membre de ce corps. Jésus ne ferme la porte à personne. Si quelqu'un veut bien, il peut rentrer dans cette église. C'est pour cela que c'est si facile de devenir chrétien, même des non-chrétiens, comme nous l'avions vu dans une autre émission, peuvent s'administrer le baptême à partir du moment où ils veulent faire ce que l'Église veut faire. Voilà. C'est-à-dire, veulent ce que le Christ veut pour appartenir à son corps. Donc il y a une très grande libéralité pour rentrer dans l'Église catholique, alors que quand on est juif, il faut un papa juif, une maman juive, historiquement, puis petit à petit, après les destructions de 135 qui ont eu lieu avec la guerre contre les Juifs, on a dit qu'il faut au minimum une mère juive. Et de nos jours, c'est encore la règle, il faut une mère juive pour être juif, c'est-à-dire appartenir à quelque chose de vraiment charnel au sens noble du terme, c'est-à-dire appartenir à une descendance.
Ignace d'Antioche dit « Là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique ». Et donc, si on va à une extrémité, mais si un musulman rencontre, et ça on en voit quelques-uns, rencontre le Christ découvre le Christ et ont foi en lui, ça veut dire que l'Église catholique est en eux?
Alors, d'une certaine manière, si Jésus est en eux, oui, il y a déjà le passage de cette potentialité à l'actualité, mais sans la visibilité. Et le baptême, le gros avantage du baptême, c'est que ce sont des liens avec d'autres personnes qui ont administré ou s'administrent le baptême, et du coup, il y a des liens visibles en même temps. Et n'est vraiment chrétien au sens plénier du terme que celui qui est uni à l'Église d'une manière invisible par la grâce et tout ce qui va avec la grâce et par une appartenance avec un corps dont la visibilité ne fait pas de doute.
Oui, de grand. Alors au numéro 830 toujours, il est dit que dans l'Église catholique il y a la plénitude des moyens de salut. Et entre autres, qu'on y trouvera toujours la confession de foi droite et complète. Alors, est-ce que ça veut dire que dans l'Église catholique, il n'y a jamais d'erreur concernant la foi et qu'elle sera toujours droite et complète dans l'Église?
Oui, ça, c'est un acte de foi que nous faisons dans la sainteté de l'Église, une sainte catholique. Nous avons déjà médité sur ces point apostolique, parce que fondé par les apôtres, et il y a donc une assistance du Saint-Esprit tout du long des siècles qui fait que l'Église ne peut pas se tromper, ni nous tromper, par ce qu'elle enseigne au plus haut niveau. C'est ce que nous disons d'ailleurs dans l'acte de foi, hein. « Mon Dieu, je crois fermement aux vérités que vous nous avez enseignées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc ça, c'est une certitude de foi. Cependant, tous les textes que l'Église exprime n'ont pas le même niveau. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand le pape, par exemple, parle dans un avion, c'est moins que le magistère universel de l'Église. C'est du papotage. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas dire « le pape a dit », donc l'Église universelle s'est prononcée sur un point. C'est seulement du papotage en avion avec des journalistes, ça n'a aucune valeur magistérielle. C'est une opinion, on est dans l'ordre de l'opinionnable et non pas... Il faut des formes particulières, l'encyclique. Quand un pape publie une encyclique, il enseigne. Et là, c'est du magistère ordinaire, universel. Au-dessus, il y a des définitions. La dernière définition, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a donnée en disant que le sacerdoce était réservé aux hommes depuis l'origine des apôtres. Et puis au-dessus encore, il y a des dogmes. Par exemple, le dernier dogme, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, qui est important puisque nous affirmons que la Vierge est montée au ciel en son corps et en son âme.
Et les motu proprio, c'est à quel niveau ?
Alors, les motu proprio, c'est des mouvements propres du pape dans lesquels il prend des décisions plutôt canoniques, c'est-à-dire c'est la gestion du quotidien, c'est-à-dire je nomme telle et telle personne pour arranger telle et telle affaire, je prends des décisions donc au jour le jour.
Ah oui, d'accord.
Donc ça n'a pas grand poids, sauf si dedans le pape veut dire explicitement. Et j'enseigne au nom de Saint-Pierre telle et telle chose que mes prédécesseurs avaient déjà commencé à exprimer.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.